Le message que je vais vous transmettre, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour le moment, pour nos églises de manière générale. Et ça tombe bien par rapport à ce qui a été partagé aussi dans la présidence, comme quoi les choses se mettent vraiment bien ensemble. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez, on a parlé tout à l'heure de à quoi on aspire et qu'est-ce qu'on cherche de manière générale dans le monde, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que cherche le Seigneur? Que cherche Dieu de manière générale? J'aime bien l'interaction, donc n'hésitez pas à répondre. Que cherche Dieu de manière générale? Quel est son but à Dieu? Ouais. Mais pourquoi? Ouais. Ouais. Ouais, on se rapproche. Ouais, c'est un peu cette idée-là où je veux arriver. Pour qu'on puisse faire sa volonté. Mais en fait, toutes ces choses-là servent à quoi au final? Servent. En fait, il y a un mot qui revient souvent dans la parole et qui est vraiment ce que Dieu recherche à travers toute la parole, vous pouvez regarder, c'est sa gloire. Sa gloire. C'est le fait qu'on lui rende gloire. D'ailleurs, toutes les choses qu'on a citées, il y a même un verset qui dit que nous-mêmes, c'est ce que nous devrions, au final, chercher. Il est dit dans la parole que tout ce que vous faites, faites-le pour sa gloire. Donc, vous voyez, il y a des choses qui reviennent. Donc, il demande d'abord ce que lui cherche, c'est sa gloire. C'est vraiment ce qu'il poursuit. Hein. Il cherche ça dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il met en place, c'est pour sa gloire. Dans le fait de nous sanctifier, de nous sauver, c'est pourquoi? De nouveau, pour que le monde spirituel voit sa gloire, comprenne sa sagesse. Quand il regarde ce qui se passe en Christ, le monde spirituel s'étonne et rend gloire à Dieu. Il y a vraiment cette idée de la gloire de Dieu qui revient. Et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Parce que c'est un terme un peu abstrait, donc on va juste s'arrêter quelques instants là-dessus. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Alors si on va un peu dans l'hébreu, l'idée de gloire revient à l'idée de poids, de lourdeur, c'est vraiment l'idée de ce que représente Dieu, son poids. D'ailleurs, c'est lié au foie aussi, c'est la même racine que le foie qu'on a à l'intérieur dans notre corps, qui est l'organe le plus lourd. Donc il y a vraiment l'idée, c'est comme si on pesait Dieu, quoi. On le mettait sur une balance, mais évidemment, Dieu est incroyablement grand. Donc quand on le loue et qu'on lui rend gloire, c'est vraiment l'idée qu'on est en train de se représenter qui il est, quoi. C'est vraiment cette idée de poids, et normalement ça devrait découler la crainte de Dieu. De se dire, il est tellement grand. Et c'est ça que Dieu poursuit dans tout ce qu'il met en place, et on va le voir. Et justement, moi je voulais vous poser la question, on a parlé de notre vie de tous les jours, mais quand on vient ici le dimanche matin, pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pourquoi vous êtes venus ce matin? Pour le louer, le glorifier, être enseigné, lui rendre gloire. Voilà, idéalement, c'est cette idée de lui rendre gloire. Alors, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut lui rendre gloire? Est-ce que c'est juste en chantant? Est-ce que c'est en chantant fort? Est-ce que c'est en chantant de tout son cœur? Comment lui rendre gloire? Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu? Parce qu'en effet, c'est l'enjeu de tout ce qu'on fait, et surtout quand on vient ici, logiquement. C'est pas juste pour se retrouver ensemble et passer un bon moment. Ce qui pourrait parfois être le cas, où on oublie, en fait, qu'on est là pour quelque chose de plus grand. On est là pour lui rendre gloire. Et ça nous pose la question aussi de nos attentes de dimanche en dimanche. Là, on vient de finir les camps à Genneval, donc je suis aussi responsable du camp ado. Et au camp, chaque année, les ados, quand ils reviennent, je ne sais pas s'il y en a qui ont des ados autour d'eux et qui voient un petit peu, mais souvent les ados, ils ont des attentes qui sont assez élevées, non? Ils s'attendent toujours à plus, surtout dans notre société de consommation, ils attendent toujours, voilà, ils veulent le dernier truc à la mode, ils veulent toujours que ce soit mieux, mieux, mieux. Et quand on arrive dans les camps, mais c'est pas évident de les satisfaire, parce que si l'année passée ça leur a plu, ils ont dit, parfois il arrive, oh, ce camp-ci c'était le meilleur. Ben, comment on va faire l'année prochaine? Parce qu'il y a cette attente d'être surpris, cette attente de plus, hein, pour ceux qui font des camps ou qui en ont fait, vous savez, on attend le camp suivant, on se dit, oh, si c'était bien cette fois-ci, ça va être encore mieux la fois prochaine, on a hâte d'y aller. Et il y a cette attente qui vient. Bon, il y a l'attente ludique, mais on espère aussi qu'il y a une attente spirituelle. Waouh, Dieu m'a touché, Dieu m'a parlé, Dieu a fait quelque chose dans ma vie, j'ai envie d'encore que le camp prochain je viens et j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de savoir ce qu'il veut, j'ai cette attente. Et je me suis posé la question, voyant dans ces ados toutes ces attentes, de me dire, et moi dans ma propre vie, pas de camp en camp, mais de dimanche en dimanche, de moment avec Dieu, est-ce que j'ai toujours des attentes qui sont grandissantes? Ou est-ce que je m'attends à ce que ce dimanche-ci soit le même que le dimanche précédent? Est-ce que j'ai cette même attente de l'action de Dieu surtout? Je parle pas qu'on vive un beau culte, que les chants soient jolis, qu'il y ait une belle prédication, peu importe ça. Mais ici, je m'attarde surtout avec vous sur quelles sont mes attentes par rapport à Dieu, par rapport à sa gloire. Parce que la gloire de Dieu représente aussi sa présence, représente aussi son action. On va le voir ici dans un texte où on va ouvrir la parole. Mais il y a vraiment cette idée de quelles sont mes attentes quand je viens le dimanche. Et où est-ce que j'en suis dans mes attentes par rapport à Dieu? Est-ce que j'ai... Parce que dans notre pays, on a une culture, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, qu'il y a une culture du contentement. Souvent, on se contente des choses en Belge. On a une maladie, on a un pépin, on a tout. On va dire, oh, ben, ça va, de toute manière, il faut faire avec. Vous voyez cette idée de faut faire avec? C'est l'idée du contentement. Je fais avec ce que j'ai. Et même j'en arrive en tant que chrétien, ben, je fais avec ce que Dieu me donne. Hein, on peut en arriver dans cette idée du contentement. Mais si on lit la parole, on se rend compte que Dieu nous appelle toujours à avoir une envie de plus, une faim de plus, cette soif de lui. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ça revient dans les béatitudes. Cette idée de s'attendre à lui, de vouloir plus de lui. Et dans la parole, il y a plusieurs hommes qui ont vécu de grandes choses avec lui, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur l'histoire d'un homme qui est bien connu. Et vous allez voir les différentes étapes de sa vie qu'on va parcourir. On va voir qu'il y a cette gradation et ce moment où il y a toujours plus qui se passe dans sa vie, et même quand il se passe des choses extraordinaires, il va encore demander plus à Dieu. Et mon souhait, c'est qu'on soit un peu comme cet homme qui va toujours en vouloir plus. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut plus de son royaume sur terre. Quand vous demandez le Notre Père, c'est qu'il y ait plus de lui sur la terre. C'est ça? Quel est notre enjeu d'aller dans le monde et d'être des disciples et de faire des disciples? C'est qu'il y ait plus de disciples. C'est qu'il y ait plus de gens qui soient conscients de ce qui est Dieu et lui rendent gloire. Il veut toujours s'étendre Dieu et il aspire à ça aussi dans nos vies et plus de place aussi dans nos propres vies. Il y a toujours cette idée de plus avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'abondance. Dieu ne s'arrête pas. Dans Éphésiens, il est dit que la richesse de sa grâce est infinie ou qu'elle est surabondante. Il y a cette idée d'abondance. Le péché abonde, mais la grâce surabonde. Donc ça coule, ça coule, ça coule. Et c'est ma prière pour ce matin avec vous. Alors, on va prendre dans la parole l'histoire de Moïse. Donc on va aller dans l'Exode. Alors je sais pas pour Richard s'il va savoir me suivre parce que on va pas s'arrêter à un endroit, mais on va faire plusieurs endroits parce que j'aimerais parcourir un peu sa vie dans ces moments justement, dans ces épisodes, dans ces étapes clés et de voir à chaque fois ce qui va s'y passer. Donc on va s'arrêter dans à peu près 5 endroits de sa vie. Je prendrai peut-être quelques petites anecdotes en plus, mais 5 moments de la vie de Moïse. Donc on va un peu parcourir l'Exode, du chapitre 1 au chapitre 33. On va pas s'arrêter dans tout, ne vous inquiétez pas, je vais respecter le temps, je vais essayer de faire au maximum. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse constater qu'à travers la vie de Moïse, il y a eu vraiment une évolution, surtout dans cette recherche et dans ses attentes. Alors, là où je voudrais commencer, c'est dans le chapitre 1. Là, on va peut-être pas forcément prendre de texte en tant que tel, mais je voudrais simplement vous demander ce que vous voyez dans ce début de l'histoire de Moïse. Donc au début, il y a le peuple qui est là, qui est en train que Dieu... Donc le peuple est en Égypte, il est sous l'esclavage, il va avoir cette fameuse naissance. Est-ce que vous voyez Dieu dans tout ça? Est-ce que Dieu est quelque part dans ce début de la vie de Moïse? Là, je vous interroge un peu vos souvenirs, parce que j'ai pas envie de lire tout le texte non plus, parce que sinon ça va être trop long. Mais est-ce que vous voyez dans le début de l'histoire de Moïse l'action de Dieu? Donc je vais dire plus ou moins jusqu'à début de sa vie, naissance, enfance. Qu'est-ce que vous voyez, vous pouvez retirer de la vie de Moïse déjà là, où Dieu est présent ou pas? Est-ce qu'il est présent ou pas? La façon dont il est sauvé, donc là on est déjà dans les eaux où il est sauvé, oui. Mais est-ce que déjà avant, il y a déjà des choses qui se passent, même avant qu'il soit là? Ouais. La protection de la maman qui a déjà réfléchi à ce qui était en train de se passer, qui était consciente du contexte. Oui. Mais il y a déjà avant. Il y a déjà avant. Les sages-femmes qui refusent de faire mourir les enfants à cause de la crainte de Dieu. Donc là, il y a déjà quelque chose. Mais on va même plus tôt. Pourquoi, en fait, il est question de naissance, en fait? Parce que qu'est-ce qui se passe en Égypte à ce moment-là? Il fallait les tuer, mais pourquoi il fallait les tuer? C'est quoi le problème de départ? Parce qu'ils sont trop nombreux, pourquoi? Parce que Dieu a fait quoi? Dieu les a multipliés, ça commence là. Moïse n'était même pas encore là. Mais Dieu est déjà en train d'agir parmi le peuple en Égypte sous la captivité. Il multiplie le peuple. Là, le pharaon se demande, oulala, il y a un truc dangereux là. Il va vouloir agir. Mais les sages-femmes vont pas l'écouter. Elles voulaient qu'il tue les bébés. Ensuite, la maman de Moïse, parce qu'il, d'abord, il voulait empêcher les naissances, puis après, il va vouloir tuer les premiers-nés. Et là, en plus, la maman, c'est la qui va sauver. Donc, on met tout dans le puzzle, dans l'ordre. Donc, déjà, au départ, on voit l'action de Dieu, simplement, alors que Moïse n'a encore rien fait. Il est bébé. On est d'accord? Donc, il y a une conscience que Dieu agit dans le peuple. Alors qu'il s'est encore rien passé. Ensuite, Moïse va grandir. Donc, on va avancer. Moïse grandit. On est au chapitre 2 et on va prendre quand même le verset 11 et 12. Verset 11 et 12. Donc en ce temps-là, chapitre 2, verset 11 et 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la vie de Moïse ? Il est touché par la souffrance du peuple. Souffrance que Dieu lui-même a, hein, on va le voir par la suite. Donc, on pourrait dire, à partir d'ici, il y a comme déjà un appel qui est sur sa vie, il voit la souffrance du peuple, il la constate. Mais qu'est-ce qu'il va faire, au lieu de s'en remettre à Dieu comme il fera par la suite? Il va essayer, on va le voir au verset 12, d'y aller par ses forces. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il va essayer de résoudre le problème par lui-même. Donc là, Moïse est touché, il faut faire quelque chose pour le peuple, et encore là, ce n'est qu'un petit endroit, hein. Il n'a pas encore tout vu, parce que c'est comme ça partout. Juste un endroit, ça le touche, et il veut intervenir. Malheureusement, quand on fait par nos propres forces, souvent par la chair, on pourrait dire, les conséquences sont plutôt négatives, voire ici même mortelles. Donc retenons cet exemple, on va y revenir par la suite. Alors, ça continue, donc Moïse va devoir s'enfuir, évidemment, on connaît l'histoire, c'est ça qui est l'avantage de l'histoire de Moïse, on peut avancer. Et là, on va se retrouver dans le quotidien de Moïse au niveau du désert. Il est dans le désert, il a rencontré Jéthro, déjà son beau-père, et il est en train de paître le troupeau de la famille. Donc il fait son boulot, il est dans son travail quotidien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On est au chapitre 3, verset 2. Exode, chapitre 3, verset 2. « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Donc Moïse est dans son quotidien, mais il voit une manifestation spéciale de Dieu. Dieu se manifeste à lui, de manière physique et visible ici, hein, on le voit dans le texte. Il voit quelque chose. Et là, il a le choix. Soit il continue sa route, il se dit, bah, c'est un truc. Et parfois, ça nous arrive dans nos vies. Dieu se manifeste, mais on n'en tient pas compte. Mais là, ici, Moïse, et c'est ça qui va être intéressant, au verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Pourquoi c'est important ce moment-là? Dieu peut se manifester, mais il avait le choix encore de ne rien faire. Mais parce qu'il prend la décision d'aller vers ce buisson, voir ce qui se passe, regardez ce qui va se passer ensuite, parce qu'il a pris cette décision-là et qu'il a été vers Dieu, l'Éternel vit au verset 4 qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Donc le fait que Dieu voit Moïse aller vers lui, la démarche de Moïse, donc qui était de sa responsabilité, il prend cette décision, il agit, Dieu réagit. Donc on voit ici l'interaction où Dieu va même l'appeler, va lui parler directement, l'appelant par son nom, et l'étape suivante, la fin du verset 4, et il répondit, me voici. Moïse répond. Donc on voit une manifestation, Moïse qui décide d'aller vers, Dieu l'appelle, il décide de répondre. Toutes des étapes. Ça va être important pour la suite, on va y revenir. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, il va lui demander d'enlever les souliers, et puis ensuite Dieu va lui communiquer son cœur. Parce que Moïse est allé vers lui, parce que Moïse a répondu à son appel, il a dit, me voici, Dieu a pu commencer à lui communiquer son cœur, en disant, moi aussi j'ai vu la souffrance du peuple, et j'ai décidé de descendre et d'intervenir. Dieu lui-même va intervenir. Et là va s'entamer toute une discussion, on va pas y aller, où Moïse va dire « je ne suis pas capable », vous connaissez l'histoire, et où, pour finir, Dieu va le rassurer, va dire « je serai avec toi, t'inquiète pas, je vais même te donner quelqu'un avec toi ». Tu auras Aaron qui va te rejoindre et vous pourrez aller ensemble. Donc Dieu va le rassurer, Dieu va même lui donner des solutions face à toutes les excuses qui se trouvaient en disant « t'inquiète, c'est pas grave, moi je veux y aller avec toi ». Et puis au final, il va partir avec Moïse. Et là va s'entamer un moment important, c'est que Moïse aurait pu décider de aussi repartir et reprendre son quotidien, mais Dieu l'envoie vers une autre direction. Et comment on voit que Moïse répond à cet appel? Il va retourner chez son beau-père et va dire à son beau-père « je dois tout quitter et partir vers l'Égypte parce que Dieu m'appelle et je dois répondre à cet appel ». Donc il y a une décision aussi de Moïse de pas juste rester auprès du feu, de pas juste avoir entendu et dire « oui, c'est super Seigneur, mais voilà, moi j'ai mon quotidien, j'ai ma vie », mais de changer complètement sa direction de vie. Et ça c'est aussi important parce que toutes ces questions-là peuvent nous être posées dans nos vies. Jusqu'où, quand j'entends ou je vois Dieu se manifester dans ma vie, j'en tiens compte? Jusqu'où, quand il m'appelle, je l'écoute? Et jusqu'où, quand il me partage son cœur, j'en tiens compte et ça change complètement ma vie? Parce que de ma réponse va dépendre la suite. Et ici, on voit que la suite va être quoi? Va être un moment de test et de persévérance. Parce que combien de fois il va devoir aller voir le Pharaon maintenant? 10 fois aller voir le Pharaon pour lui dire la même chose. Combien de fois pouvons-nous prier pour le même sujet? Combien de fois nous abandonnons après 2-3 fois? Où en sommes-nous dans cette insistance dans les plans de Dieu? Dieu aurait pu lui dire en une fois c'est réglé, hein. Pourquoi 10? Dieu est limité. Il s'est dit, ouais, il faut vraiment que le Pharaon soit vraiment fâché pour que j'intervienne. On voit vraiment que Moïse, et il va demander la même chose, hein. C'est pas comme si, bon, c'est à chaque fois un peu modifié, il y a à chaque fois un signe qui est différent, mais l'idée est la même, c'est libère le peuple. Et c'est vraiment à la 10e fois que Dieu va intervenir. Dieu aime tester l'obéissance. Dieu aime voir qu'on obéit jusqu'au bout. Et donc quand il nous met quelque chose à cœur, si on ne va pas jusqu'au bout, souvent ça s'arrête et le projet meurt. Parce qu'il y a cette insistance aussi, que ce soit dans la prière ou dans la mise en place, en fonction de ce qu'il nous demande. Il peut nous demander de prier pour quelque chose, mais il peut nous demander de faire quelque chose. Et ici, il a demandé à Moïse, imaginez, 10 fois aller voir le Pharaon, et à chaque fois se faire remballer, et retourner, devoir retourner. Donc il voit l'obéissance de son serviteur ici. Alors ensuite, à la 10e fois, heureusement, le Pharaon va intervenir et va laisser partir le peuple. Pourquoi en plus il devait laisser partir le peuple? Quel était l'enjeu? C'était quoi le but au départ? C'est pas la terre promise tout de suite normalement. Pourquoi il demandait à chaque fois de libérer le peuple? Pour aller rendre un culte, pour rendre gloire à Dieu dans le désert, la gloire de Dieu, qu'ils viennent m'adorer dans le désert, qu'ils soient libérés de cette captivité, qu'ils rendent gloire à Dieu dans le désert. Et là le peuple va pouvoir partir. Et on va aller au chapitre 13. Je vous évite tous les 10 fois où a chez le Pharaon, où justement ce peuple est libéré. Le Pharaon les laisse partir. Et donc on est au chapitre 13, au verset 17. On va prendre le verset 17. Ici on va s'arrêter quelques instants, parce que c'est vraiment un moment clé dans l'histoire. Il y aura encore 2 épisodes après. Mais ici, c'est vraiment un moment clé, donc je veux juste m'arrêter quelques instants. Parce que c'est quelque chose où on peut vraiment retirer des leçons, même pour nous-mêmes. Au verset 17, il est dit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Rien que dans ce verset-là, on voit déjà, d'une part, l'action de Dieu, hein, encore une fois, qui agit. Mais aussi, si nous, on était le peuple et qu'on se rendait compte que Dieu est en train de nous faire un détour, comment est-ce qu'on réagirait? Imaginez, Dieu vous fait fuir d'un pays, vous êtes déjà sous pression, vous dites « plus vite on est arrivé, mieux c'est ». Et Dieu se permet de vous faire faire un détour. Humainement, on n'est pas bien, quoi. On se dit, il y a un problème. Si Dieu ne nous transmet pas les raisons dans le texte de dire, il y a un danger que, voyant la guerre, il retourne, on se dit, mais pourquoi il nous fait faire un détour? Et combien de fois dans nos vies, parfois, on ne comprend pas pourquoi on prend ce chemin? Pourquoi Dieu nous permet d'aller sur cette route? Mais lui connaît les dangers. Lui sait pourquoi. C'est déjà une première chose. Ensuite, regardez la suite. Ça continue dans cette même interrogation. Si on regarde avec des yeux humains ce que Dieu fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez, verset 18. « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, verset 19, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Dieu vous visitera. Que veut dire ce « Dieu vous visitera » ? Il est venu les libérer. Dieu les a visités. C'est bizarre parce que d'habitude, Dieu est partout pourtant. Est-ce que Dieu n'était pas déjà en Égypte avant, quand ils étaient captifs? On a vu que oui. Mais pourtant, Dieu ici, Dieu les a visités. C'est-à-dire que Dieu est présent partout, mais nous allons voir à travers ce texte que Dieu peut se manifester d'une manière particulière à un moment donné. Là, il a décidé de libérer le peuple, et donc il est dit qu'il les a visités. Et on va voir plus loin qu'ils vont utiliser d'autres termes qui vont nous intéresser. Verset 20, ils partirent de Soukhot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. De nouveau, Dieu est partout, mais là il se manifeste comment ? Sous cette colonne ici de feu et cette nuée devant eux. Donc Dieu se manifeste de manière physique de nouveau. Même chose au buisson ardent, donc plusieurs manifestations physiques. Pourtant Dieu est partout. Mais là, il se manifeste d'une manière particulière. Il y a une présence forte qui est là et qui guide le peuple. On se dit que le peuple est en bonne voie, mais on va aller au chapitre 14, verset 4. Regardez ce que Dieu dit, c'est quand même fort. Donc il a libéré le peuple, pourtant voilà ce que Dieu dit au verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. » J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Si on s'arrête là, on se dit, je comprends plus Dieu. N'est-ce pas ? Dieu les fait sortir d'Égypte, ça a été déjà compliqué, il a fallu aller voir 10 fois Pharaon. Et maintenant qu'on se dit que c'est enfin, la solution est là, j'endurcirai son cœur. On comprend plus en tant qu'humain, honnêtement, on comprend pas. C'est pas la solution qu'on prierait, on dirait plutôt qu'il nous laisse tranquille, Seigneur, éloigne-le de nous, chasse-le très loin. Parce qu'en plus, c'est pas juste j'endurcirai son cœur, c'est qu'il va les poursuivre. C'est pas juste qu'il râle dans son coin, dans son grand palais, et qu'il est là en train de dire, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai laissé? Non, il va les poursuivre. Mais Pharaon et toute son armée, serviront à faire éclater ma gloire. Voilà l'enjeu de Dieu. Comprenez là où on veut en venir? Dieu ne regarde pas avec nos yeux. Lui, ce qu'il voit, il veut voir, c'est sa gloire. Et les Égyptiens, pas juste le peuple, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc nous, on se dirait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais Dieu, il sait que il permet tout ça pour qu'au moment où la mer va se refermer sur les Égyptiens, le peuple, mais aussi toutes les nations autour sauront quoi? Que Dieu est Dieu, qu'il est l'Éternel, et ça servira la gloire de son nom. Donc parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait faire des détours, pourquoi au lieu d'enlever la pression, il y a une pression supplémentaire, parce que le peuple va vraiment être oppressé, il va avoir les Égyptiens derrière eux, une mer devant eux, ils seront bloqués dans un goulot. Et là, au lieu de commencer peut-être, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez dans une telle situation. L'armée est là, la mer devant. Il n'y a plus de solution, c'est la mort, quoi. Là, peut-être qu'on se mettrait à prier, à crier à Dieu. Et pourtant, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever un bout de bois. Il va lever juste un bâton. C'est pas qu'il va lever juste un bâton au final. Qu'est-ce qu'il y a de clé dans cette histoire? Il va de nouveau écouter et obéir. Et parce qu'il a écouté et obéi à Dieu, la mer s'ouvre, le peuple passe, et la gloire de Dieu s'écrase sur les Égyptiens et libère complètement le peuple. L'obéissance de Moïse a été clé dans toute l'histoire. Et Moïse aurait pu remettre en question comment Dieu fonctionnait, aurait pu se poser 15 milliards de questions, mais Moïse, le peuple râlait, hein, n'oublions pas, le peuple râle beaucoup, hein. Mais Moïse reste fidèle à Dieu et sait que les promesses que Dieu lui a données et ce qu'il est en train de faire, il lui fait confiance. Alors, on va continuer d'avancer parce que je vois aussi que le temps avance. On va aller un petit peu plus loin, c'est au chapitre 16. On va pas tout lire, mais c'est simplement l'idée. Au chapitre 16, le peuple est libéré et maintenant se retrouve en plein désert. Et là, va découvrir une nouvelle action de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans le désert? Ils n'ont plus rien à manger, plus rien à boire. Et là, ils vont commencer à murmurer. On était bien mieux en Égypte. Ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent retourner en arrière. Ils veulent retourner dans une sécurité, en fait. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir de Dieu? Un nouvel aspect de Dieu. Le Dieu qui pourvoit, la manne, qui arrive chaque jour. Donc chaque jour, ils doivent s'attendre à une nouvelle manne, chaque jour. Chaque jour, c'est cette même foi que ça va venir, ça sera là. Donc ils s'endorment le soir sans savoir, mais le matin, c'est là. Donc ils découvrent un Dieu qui pourvoit. Donc, c'est important, je vais juste faire un résumé de tout ce qu'on a vu, parce qu'on va arriver au dernier point. Et le dernier point, il est vraiment beau. On a déjà vu Dieu agir en Égypte. Alors que Moïse était même pas né. Même quand il naît, Dieu est là. Il y a une présence qui est là. Plus forte qu'avant, parce qu'avant le peuple était même pas, on avait l'impression que le peuple était en captivité, il y avait rien. Pourtant, Dieu est omniprésent. Mais on voit Dieu qui agit, qui commence à agir d'une manière particulière. Il multiplie le peuple. Il met une crainte chez les sages-femmes. Il va permettre la naissance de Moïse. Il va se permettre de sauver Moïse sur les eaux. Ensuite, Moïse va découvrir l'état du peuple. Il va se sentir appelé à faire quelque chose, mais par ses forces, il va voir que ça marche pas. Donc, il va être un peu rejeté et exclu de tout ça. Là, dans le désert, il fait une rencontre particulière avec Dieu face au buisson ardent. Il va devoir se détourner de son quotidien pour aller vers ce Dieu. Et là, il va entendre son nom, il va répondre et il va entendre le cœur de Dieu pour le peuple, comprendre l'action de Dieu. Et là, il va avoir le choix d'obéir ou pas et malgré ses hésitations, il va faire ce choix, aller dire à son beau-père qu'il quitte tout et partir vers l'Égypte. Obéir 10 fois d'affilée, persévérer, pour aller supplier presque le pharaon de libérer ce peuple. Pour qu'au final, à la 10e fois, il puisse être libéré. Mais malgré tout, Dieu va endurcir le cœur et ramener l'armée de pharaon derrière. Pour qu'ils soient dans une situation où ils ont l'impression qu'ils vont mourir. C'est vraiment ce sentiment d'être écrasé jusqu'au point où ils vont mourir. Même dans le texte, il est dit qu'il y a un moment où le peuple criait. Mais Moïse a levé le bâton, et là la libération est arrivée. Sous base de l'obéissance de Moïse, ils sont passés. Et Dieu s'est glorifié dans toutes ces situations auprès de toutes les nations, en libérant son peuple, et on en parle encore aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'est écrit le peuple. Même dans le sabbat, on se rappelle aussi de ce moment de libération du peuple. On en arrive là. Dans le désert, Dieu va pourvoir à tous leurs besoins. Donc Dieu va s'occuper d'eux comme un papa. Il va les nourrir. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'ils ont vécu déjà des choses énormes, non? Vous êtes d'accord avec moi? Qui a déjà vécu ça dans sa vie? De telles choses. C'est déjà énorme. Et là, on va continuer en avance, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont arriver à la fameuse montagne, où Moïse va carrément aller rejoindre Dieu sur cette montagne. Et là, même le peuple ne pouvait pas approcher de la montagne. Parce que qu'est-ce qui se passait? Il y avait tout un orage, une sorte de gros orage qui était là. S'il touchait la montagne, il pouvait mourir. Donc de nouveau, une présence forte de Dieu. C'est pas n'importe qui pouvait y aller. Il devait même se purifier, même Moïse va redescendre pour leur dire « Purifiez-vous et ne touchez pas à cette montagne. » Il y a vraiment cette angoisse, on est vraiment dans le moment, c'est comme si vous sentez qu'on se rapproche d'une telle intimité avec Dieu qu'on peut y laisser la peau, quoi. C'est vraiment ce qu'on découvre dans ce texte, hein. On s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu nous aime, et d'ailleurs Dieu dit « Je veux m'approcher du peuple, mais je veux pas qu'il s'approche. » Donc on sent l'amour de Dieu qui veut se rapprocher de plus en plus de son peuple, mais on a un point où, s'il s'approche trop, eux ils peuvent mourir. Parce que la chair ne peut pas rentrer dans la sainteté de Dieu, ça ne peut pas coïncider, on reste mort. Donc ils ne peuvent pas. Mais Moïse va pouvoir monter jusqu'à Dieu. Et on va aller au chapitre 33, et c'est là où je vais en arriver, et on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. On est presque au bout. Moïse, il est dans cette situation, il va de nouveau rencontrer Dieu, donc il est déjà allé plusieurs fois voir Dieu. Hein, il y a plusieurs étapes dans tous les chapitres qu'on a sautés où il va voir Dieu. Et où c'est le temps d'aller vers la terre promise, il a déjà reçu les commandements, il a reçu tout, ils vont devoir aller vers la terre promise. Et là, Moïse, se rendant compte de tout ce qui s'est passé, va faire deux demandes, et sur lesquelles je veux m'arrêter. On va aller donc au chapitre 33, verset 12. On va prendre à partir du verset 12. Donc ils sont en pleine discussion, Moïse et Dieu. Donc déjà là, on pourrait juste s'arrêter sur rien que le fait que Moïse est en train de discuter avec Dieu. C'est déjà assez fort. Donc verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quelle promesse, non? Quand on a vu ce que Dieu a fait avant, vaut mieux être sûr qu'il marche avec nous, surtout dans ce qui les attend après. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Waouh! Rendez compte à quel point Moïse est conscient que sans Dieu, il ne se passera rien. C'est comme si en venant le dimanche matin ici, on se disait, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je n'ai même pas envie d'aller à l'église, je n'ai même pas envie d'être là, il ne va rien se passer. Je veux que tu sois avec moi. Sinon, je reste ici chez moi. C'est presque ça. Bon, là, c'est en plus petit, hein, parce que là, c'est pas juste venir ici. Ils allaient affronter tous des peuples, ils allaient devoir entrer en terre promise. Il y avait un enjeu énorme. Mais regardez comme Moïse est tellement conscient de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, qu'il dit, moi, je quitte pas ici sans toi. Et ça va aller plus loin encore. Donc déjà, une première chose par rapport à Moïse. La deuxième, comment sera-t-il donc certain, verset 16, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Verset 17, quelle intimité là, je veux juste m'intéresser. Vous rendez compte de l'intimité qu'il a avec Dieu? Il a trouvé grâce à ses yeux, déjà il a pu monter sur la montagne, il est dans cette grâce de Dieu, Dieu le connaît par son nom, donc il y a vraiment l'idée d'une intimité. Hein? On voit un père et son fils, on voit des amis presque, hein? On disait même Moïse, il parlait à Dieu face à face comme on parle à un ami. Il y a vraiment cette idée forte de relation. Et là, Dieu en arrive au point, dit « Demande-moi quelque chose et je te le donne. » Et c'est là où on va découvrir le cœur. On parlait, ça rejoint vraiment la présidence. Qu'est-ce qu'on demanderait à Dieu hein, à ce moment-là? On lui demanderait la femme, la voiture, la maison, tout le reste. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Moïse dit, verset 18, vous l'avez sous les yeux, donc vous avez déjà vu, je suppose, « Fais-moi voir ta gloire. » Oh, quelles attentes il avait! Après tout ce qu'il a déjà vu, hein, la mer et tout, la libération du peuple, c'était déjà la gloire de lui. Mais là, il veut voir Dieu vraiment, comme s'il voulait voir Dieu en face, quoi. Il voulait le voir vraiment. Pour lui, ça lui suffit pas, en fait. Tout ça derrière, c'était encore rien par rapport à qui est Dieu. Quelle attente il avait, hein. L'Éternel répondit, en gros, il va lui dire, ce que tu me demandes est impossible, tu as été trop loin. Il va lui dire ça. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est pas que Dieu l'aime moins, mais Dieu le protège parce qu'il l'aime tellement. Il sait que s'il lui donne ce qu'il lui demande, c'est fini pour lui. Et on est dans cette frontière avec Dieu. Parce que c'est cette idée que si on s'approche trop, on peut y rester, et on le voit souvent, même le sacrificateur, quand le grand sacrificateur rentrait dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait une corde autour de son pied au cas où il restait dedans. S'il n'était pas suffisamment pur, il pouvait mourir sur place, et alors on devait le tirer pour enterrer son cadavre. Ça, c'est la présence de Dieu, forte, l'intimité. Il y a un point d'intimité où on ne peut pas aller, voir la face de Dieu. Et Moïse était tellement proche. Je vais m'arrêter là, mais je voudrais terminer en disant, où est-ce que nous on en est dans notre marche avec Dieu? Est-ce qu'on est conscient déjà de sa présence, comme elle était en Égypte? Ou peut-être même pas, parfois on se dit, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il agit encore aujourd'hui face à toute cette actualité? Est-ce que Dieu est encore présent? Et on n'a peut-être même pas l'impression d'être dans l'action de Dieu en Égypte, on a encore peut-être l'impression qu'on est dans la captivité où Dieu n'est pas là. Il n'y a pas eu de cri. On crie même plus. C'est comme ça la vie. Ou est-ce que peut-être vous êtes dans la phase où vous criez, vous dites, moi j'en ai marre de cette captivité, j'en ai marre de cette situation. Seigneur, viens, délivre-moi. Et vous attendez à son action. Peut-être que vous êtes touché par les choses qui sont autour de vous, par une situation, par des gens autour de vous, voudriez tellement les aider, mais par vos forces, vous vous rendez compte que ça marche pas. Peut-être que Dieu s'est déjà manifesté, ou peut-être que vous êtes passé à côté de la manifestation sans vous en rendre compte. Peut-être que vous avez besoin que Dieu se manifeste d'une manière particulière à vous, comme ce buisson ardent, d'entendre votre nom, qui vous appelle par votre nom, de pouvoir répondre, pouvoir entendre son cœur. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi, Seigneur? Quelle est ma mission? À qui dois-je aller parler? Combien de fois? Quelle situation veux-tu que je libère? Car nous-mêmes, nous avons été oints pour libérer les captifs, Ésaïe 61, que Jésus reprendra et auquel Jésus nous appelle. Mais qui, Seigneur? Peut-être vous avez déjà été appelé, vous avez déjà tout, et vous êtes dans ce combat où vous dites, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois aller encore une fois faire ça? Parce que vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu. Peut-être il y a déjà eu des libérations dans vos vies, vous avez déjà vu de grandes choses. Mais vous avez l'impression maintenant que l'étau se resserre, peut-être que l'ennemi est derrière et que vous avez l'impression que ça se referme et vous savez peut-être pas quel geste poser, quelle parole dire, est-ce qu'il faut que je prie, est-ce qu'il faut que je... Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Peut-être vous avez vécu de grandes victoires mais vous avez l'impression que peut-être Dieu ne pourvoit pas, Dieu n'est pas là dans les réponses du quotidien, ou peut-être vous êtes dans une situation où vous devez vous attendre à Dieu qui pourvoit d'une manière particulière et il vous montre qu'il est le Dieu qui pourvoit, que ce soit financièrement, mais aussi matériellement ou dans un projet. Il vous demande de partir loin, mais vous n'avez pas les billets d'avion, vous ne savez pas partir, vous dites que ce n'est pas possible. Où en êtes-vous, chacun, dans votre chemin avec Dieu? Moïse a dû passer par toutes ces étapes, mais ce qu'il caractérisait, c'était ce désir de toujours plus. Même qu'il avait vu tout ça, ce qui a grandi dans toutes ces épreuves et dans tout ce qu'il a vécu, c'est cette soif, au final, de voir Dieu davantage. Est-ce que nous voulons voir davantage Dieu dans nos vies? Que ce soit dans l'action, mais aussi dans la relation. Surtout dans la relation. Est-ce que nous avons toujours faim et soif? Moi, je prie que ma faim ne s'arrête pas. Que je n'arrive pas à un esprit de contentement. Il y a des jours où on se contente, où on se lève, on se dit, ben voilà, j'ai déjà vécu pas mal de choses avec Dieu. Mais j'aspire à ce que chaque fois, il y a ce matin où je dis, oh, non Seigneur, je veux pas me contenter de ça, je veux plus. Et de pouvoir faire ce bilan. Donc, peut-être je vous invite à un petit temps de silence, qu'on puisse se tenir devant Dieu, faire ce temps au Seigneur où j'en suis. Et je prie vraiment, après je vais prendre un temps pour prier aussi pour chacun de vous et pour tout ce qui a été partagé. Mais que vraiment le Seigneur fasse la paix dans nos cœurs et nous aide à y voir clair sur où on en est aujourd'hui et que cette faim et cette soif puissent grandir. Seigneur, merci pour ton action dans la vie de Moïse, dans la vie de ce peuple. Merci parce que tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui pourvoit et tu es surtout le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, aide-nous à avoir la même faim et la même soif que Moïse. Aide-nous à nous attendre à toi d'une manière tellement grande, pas forcément en faisant énormément de choses, car il a suffi de lever un bâton. Il a fallu même un bâton juste pour convaincre Pharaon, parce que à travers les signes et les prodiges que tu as faits, tu utilisais le bâton de Moïse. Tu utilisais ce bâton pour ouvrir la mer Rouge. Tout ça pour que quoi? Pour que Moïse ne se glorifie pas, mais pour que toute la gloire te revienne. Car ce n'est pas une question du bâton, ce n'est pas une question de Moïse au final, c'est une question de ton action. Tu avais décidé de libérer ton peuple. Seigneur, merci parce que en Christ, tu as décidé de nous libérer. Éphésiens nous dit qu'on a été élus, prédestinés d'avance pour être sauvés, pour être saints, irrépréhensibles, pour être participants de ta gloire. Tu veux nous faire participer à ta gloire. Quelle grâce! Seigneur, nous oublions si souvent le prix que ça a coûté, mais nous oublions aussi tes projets pour nous. Tu as ces projets-là pour nous, pour chacun de nous et pour ceux qui sont autour de nous. Et tu veux que nous allions annoncer cette bonne nouvelle, que tu veux faire participer chacun à ta gloire. Tu voudrais que tous participent à cette gloire parce que tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu de grâce. Et tu veux, Seigneur, que cette grâce s'étende au plus grand nombre. Seigneur, comme toi, tu veux toujours plus de nous, plus de nos vies. On a chanté ce chant tout à l'heure, « Je te donne tout, je t'abandonne tout, j'abandonne tout. » Seigneur, tu veux que nous abandonnions tout afin qu'il y ait plus de toi en nous. Seigneur, aide-nous à ce qu'il y ait plus d'envie de toi aussi. Ta parole nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, merci de susciter cette faim et cette soif de toi, de ta gloire, dans nos vies, dans nos familles, pour notre Église, pour cette Église, pour ce pays. Seigneur, que nous ne puissions pas repartir d'ici sans toi et que nous ne puissions plus marcher dans nos vies sans toi. Que nous attendions chaque matin à cette manne, la manne de ta présence qui nous accompagne et qui manifeste ta gloire dans notre quotidien. Augmente nos attentes de toi, car tu en donneras selon notre foi et selon ce qu'on te demandera. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.